Ce soir, on découvre que l'expression qui compare l'amour à des papillons dans le ventre est peut-être à prendre au sens littéral. La créature du soir est un glouton pour qui le repas ne s'arrête jamais vraiment. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 60, Le Petit Veau, où on se plonge dans un conte traditionnel quechua, un peuple natif américain des Andes. Il a été enregistré auprès d'une grand-mère quechua qui l'a raconté dans sa langue maternelle, et j'ai essayé de rester le plus proche possible de sa version pour vous transmettre son récit fidèlement. Avant de commencer, je voudrais toutes et tous vous remercier pour votre soutien, vos messages et vos tips. Les contes pour moi sont quelque chose de vivant, d'humain, et on se sent parfois un peu seul derrière le micro. Ça fait un bien fou d'avoir un retour, alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook ou Instagram. Et puis, depuis le dernier épisode, le podcast a dépassé le 1 000 000 d'écoutes. Alors merci aussi pour ça, et continuez de partager vos épisodes préférés. Il était une fois une jeune femme qui adorait les animaux. Elle les aimait tant que, même tout juste mariée, elle passait plus de temps avec son chien et ses chats qu'avec son mari. Sa mère n'avait de cesse de la sermonner, surtout lorsqu'elle tomba enceinte de son premier enfant.
« La place d'un chat est dehors, à chasser les souris, pas perché sur ton ventre où dort ton bébé !»
Mais la jeune femme n'y prêtait aucune attention et continuait de caresser son compagnon en fourrure. Le temps passa et l'heure de l'accouchement arriva. La jeune femme se trouva avec ses parents. Son mari était absent. Ce fut sa vieille mère qui servit de sage-femme. Le labeur se passa aussi bien qu'on aurait pu espérer et la jeune femme en sortit épuisée, mais en pleine forme. En revanche, dès que l'enfant était sorti, la vieille mère l'avait emmené auprès de son mari, dans la pièce voisine. La jeune femme reprenait conscience de ce qui l'entourait maintenant. Elle entendait des murmures précipités venant de l'autre pièce, mais aucun pleur de nourrisson. La peur commençait à la gagner, et elle se mit à crier après sa mère.
« Voilà, voilà, je suis là, »
fit la vieille femme en passant le seuil de la chambre.
« Ton bébé est vivant, ne t'inquiète pas. Je te l'avais dit pourtant. Je t'avais dit de passer moins de temps à jouer avec ces bêtes. Pourquoi ? Mais pourquoi ne m'as-tu pas écouté ?»
La jeune femme remarqua alors la couverture que sa mère serrait dans ses bras. Elle était étrangement démesurée. D'une main tremblante, la vieille femme souleva un coin et l'enfant apparut. La jeune femme avait donné naissance à un petit veau. Mais passée la première surprise, elle sourit, prit son enfant dans ses bras et lui donna le sein. Elle la chérissait, mais lorsque son mari rentra et vit l'enfant, il s'exclama. « Ne va pas t'imaginer que nous allons élever cette bête. Elle ira paître dans les montagnes, avec Marianito. » La jeune femme appela alors le bouvier et lui demanda à contre-cœur d'emmener le veau.
Dans un des hauts pâturages, il y a un rocher qui se dresse vers le ciel. Je veux que tu la laisses là-bas. »
Le garçon acquiesça et se mit en route. Il emmena les bêtes comme à son habitude et le petit veau avec. Mais quand il parvint au rocher dont lui avait parlé sa maîtresse, le veau se mit à pleurer.
« Oh, Marianito, Marianito, ne me laisse pas. Promets que tu viendras me voir chaque dimanche. »
Marianito promit. Il déposa un baiser sur chaque joue du veau et s'en alla. Dès qu'il fut rentré, la jeune femme se précipita vers lui.
« L'as-tu bien laissé là où je t'avais demandé ?»«
Oui, maîtresse, bien sûr. »
Elle a pleuré,
et j'ai promis d'y retourner chaque dimanche, si vous le voulez bien. »
La jeune femme accepta, et de ce jour, chaque dimanche, Marianito gravissait la pente raide qui menait au pâturage et venait retrouver le veau. Il apportait des provisions que l'animal dévorait goulûment, et les deux s'installaient, lovés l'un contre l'autre, à regarder passer les nuages. Le garçon passait ainsi des heures à caresser le veau, puis, quand venait le soir, descendait en pensant déjà au dimanche suivant. Il en fut ainsi pendant longtemps. Le veau grandissait, grandissait, et un jour, au moment de se quitter, elle dit à Marianito
« Je veux que tu dises quelque chose à ma mère pour moi. Tu dois t'assurer que personne d'autre ne puisse entendre. Elle doit préparer une fournée de pain et me réserver une miche parmi les premières à sortir du four. Elle doit aussi me laisser un verre de vin, le premier d'une bouteille ouverte pour l'occasion. Elle disposera ça dans une chambre où un nouveau lit viendra d'être construit. Personne ne doit avoir dormi dedans. À côté du lit, des fleurs et de l'eau bénite, et un jeune garçon doit m'attendre, un garçon innocent. C'est important, un jeune garçon né la même année que moi et innocent. Dis-lui, Marianito, s'il te plaît, je t'en prie. »
Le vacher promit et prit le chemin du retour. Quand il répéta les paroles du veau à la mère, elle l'assaillit de questions et il dut répéter plusieurs fois les instructions qu'on lui avait demandé de transmettre.
Elle a dit tout cela, conclut-il, et elle a ajouté qu'elle viendrait. Dans la nuit de samedi ou de dimanche. « Je ne suis pas sûr, mais elle viendra à minuit, ça je le sais. »
Toute la semaine, la mère attendit avec impatience la visite de son enfant. Il ne manquait que le jeune garçon. La veille, elle se rendit donc chez sa voisine, qui avait un fils du même âge que sa fille. Elle expliqua que son mari était parti en voyage et qu'elle se sentait terriblement seule. Elle promit de bien s'occuper du garçon, et la voisine donna son accord, juste pour une nuit. Le lendemain, quand tout fut en place, le garçon se présenta. La mère lui donna un bain, le savonna attentivement et le parfuma avant de le mettre au lit. Ils discutèrent de tout et de rien jusqu'à ce que le sommeil vienne le prendre. Alors, la mère s'éclipsa discrètement. À minuit, un beuglement mélodieux retentit dans la nuit. Quelques instants plus tard, le petit veau entra dans la pièce. Il renifla avec bonheur l'odeur chaude de la miche de pain, s'enivra du parfum du vin et des fleurs, mais ne toucha à rien. Il s'approcha du lit où dormait le jeune garçon, se leva sur ses pattes arrière. Un frisson glissa dans l'air alors que la peau d'animal tombait des épaules de la jeune fille. Elle entra dans le lit et se blottit contre le garçon avant de s'endormir. Plus tard dans la nuit, le garçon s'éveilla et sentit une présence à côté de lui. À tâtons, il effleura un visage, aussi doux que la soie, encadré de cheveux épais et parfumés.
« Est-ce la maîtresse qui dort là ?» se demanda-t-il. « Qui peut avoir la peau si douce ?»
Il contempla la forme de l'étrangère pendant longtemps et finit par se rendormir. Au matin, il était seul dans le lit. Mais quand il raconta son aventure à la mère, cette dernière fut folle de joie. Elle prépara un succulent déjeuner pour le garçon et lui offrit de beaux jouets neufs avant de le renvoyer chez sa mère. Le soir venu, il la supplia de le laisser passer à nouveau la nuit chez la voisine. « Elle était horriblement seule, » insista-t-il. Sa mère accepta et le jeune garçon se présenta à nouveau le soir venu. Cette fois, cependant, il était bien décidé à savoir qui était l'inconnu. La nuit tombée, il fit semblant de s'endormir et attendit. Il avait caché un morceau de chandelle et un briquet dans sa poche. Vers minuit, un charmant beuglement retentit. Quelques instants plus tard, le jeune garçon entendit la porte de la chambre grincer et fut stupéfait de distinguer un bruit de sabots sur le plancher. Le petit veau huma l'air avec délice, laissa glisser sa peau de bête et, redevenue jeune fille, se glissa sous la couverture. Le jeune garçon frissonna, mais réussit à se retenir de bouger. Quand la jeune fille se fut endormie, celui-ci alluma le plus silencieusement possible la chandelle et la leva au-dessus du visage de l'inconnu.
ce qu'il découvrit le bouleversa. Il n'avait jamais vu de fille aussi belle. Ses traits étaient d'une parfaite harmonie, et ses cheveux noirs luisaient de reflets lumineux. Le jeune garçon se perdit longtemps dans l'admiration de la jeune fille. Finalement, il souffla la chandelle. Une goutte de cire tomba alors sur le visage de l'inconnu, et elle disparut. D'un coup, elle s'évanouit simplement dans la nuit. Désemparé, le jeune garçon quitta le lit et se mit à tisser des sandales, comme elle le lui avait demandé. Quand le matin arriva, il avait tout juste le temps de terminer la 7e paire. Il enfila la première et se mit en route. À travers tout le village, il chercha la jeune fille, mais elle n'était nulle part. Les maisons disparurent derrière lui, mais il n'arrêta pas de chercher. Bientôt, il arriva aux abords d'un autre village, mais la jeune fille n'y était pas non plus. Quand il atteignit la dernière maison, il aperçut une femme qui rentrait chez elle.
« Madame, avez-vous vu une jeune fille passer par ce village aujourd'hui ?»«
Oui, une jeune fille est passée par ici ce matin. Elle n'a fait que traverser le village et a continué sa route. »
Le garçon repartit à la recherche de la jeune fille. Il arpenta bien des chemins et finit par arriver à un autre village. Il était un jeune homme désormais. Il avait usé 2 paires de sandales. Le désespoir le gagnait quand une dame le croisa.
« Oh, madame, madame, est-ce qu'une jeune fille est passée par ici ?»«
Oui, il y en a une qui est passée il y a peu. Elle a continué sa route. »
Ses forces revinrent au jeune homme et il poursuivit son périple. Il traversa les villages un à un. À chaque fois, on avait vu passer la jeune fille, et à chaque fois, son espoir de la rattraper grandissait. Mais il finit par tomber à court de village.
« Où allez-vous, monsieur ?» l'interpella une femme. « Ce village est le dernier. Il n'y a plus de ville après, plus personne qui occupe la terre. Au-delà, s'étend la jungle. »
« Je cherche une jeune fille. L'avez-vous vue passer ?»«
Oui, une jeune fille est passée par ici. Elle s'est dirigée vers la jungle, elle aussi. »
Il ne restait que 2 paires de sandales au garçon. Il en enfila une et s'enfonça dans la jungle. Après les grands paysages ouverts qu'il traversait depuis si longtemps, la forêt tropicale lui paraissait lancérée de ses lianes. Où qu'il posa le regard, des feuilles ou des troncs le bloquaient à quelques mètres à peine. Il continua à avancer malgré tout, mais finit par rencontrer 2 grands condors qui se disputaient en bloquant le chemin. Les rapaces n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le partage d'une vache qu'ils avaient trouvée. Finalement, l'un des condors l'aperçut.
« Hé, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas marcher ici. »«
Je sais, monsieur, je sais, mais mon cœur est lourd de chagrin. Je marche, car la tristesse guide mes pas. »«
Quoi ?»«
Voilà toute l'histoire, monsieur. » Et le jeune garçon raconta toute son aventure.
« Bon, très bien, mais si tu veux passer, commence par diviser cette viande entre nous. Nous n'arrivons pas à tomber d'accord. » Il faut avant tout faire une offrande au dieu de la montagne.
Le jeune homme commença alors par offrir à manger à la plus haute des montagnes. Le cœur, la langue, les yeux, le dieu engloutit tout ça, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Le jeune homme empoigna alors son couteau et commença à découper la viande. Il donnait un morceau à l'un des rapaces, puis à l'autre, et fit ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que les os sur la carcasse. Les condors avalaient la viande avec un tel appétit que le jeune homme commença à prendre peur. « C'est ici que tout s'achève, » pensait-il. « J'ai marché si loin en vain, juste pour servir de repas à des rapaces. »
Mais lorsque les oiseaux eurent avalé tout ce qui restait de la vache, ils se tournèrent vers lui.
« Pour trouver cette jeune fille, tu dois te rendre jusqu'à un lac, plus haut dans la montagne. Là, une chèvre broute au bord de l'eau. Il faut que tu l'attrapes et que tu ouvres son ventre. À l'intérieur, tu trouveras un chat. Tu ouvriras aussi son ventre. Là, tu trouveras un cochon d'Inde que tu ouvriras aussi. Dans son ventre à lui, tu trouveras une colombe. Ne la laisse surtout pas s'échapper.
« Viens, » lui dit l'autre condor. « Accroche-toi bien, je vais t'emmener au lac. »
Le jeune homme agrippa le corps de l'oiseau de toutes ses forces et celui-ci déploya ses ailes. En quelques battements, le vent sifflait aux oreilles de l'inconfortable passager.
les arbres, même les montagnes en bas lui paraissaient minuscules. Il aperçut un cheveu d'argent qui sinuait sur les pentes rocheuses, avant de comprendre qu'il s'agissait d'un torrent. Un terrible vertige lui secoua le ventre.
« Fais attention, tiens-toi bien !» lança le condor. « Ce ne sera pas ma faute si tu tombes, et tu n'aimeras pas la chute. »
Bientôt, un miroir scintillant apparut derrière un promontoire dressé fièrement contre le ciel. Le lac était là. Le condor se posa près de la berge, juste le temps pour le jeune homme de descendre de son dos, et repartit aussitôt vers les nuages. L'air était frais là-haut, rare. Le vent agitait les branches des arbres qui venaient tremper leurs pieds dans l'eau glacée. Le jeune homme regarda autour de lui et finit par apercevoir une petite tache blanche qui bondissait de l'autre côté du lac. Le plus discrètement possible, il s'approcha, restant sous le couvert des arbres pour ne pas effrayer la chèvre. Au moment où il s'apprêta à bondir, l'animal releva la tête, le regarda droit dans les yeux avec tristesse et s'esquiva d'une élégante cabriole. Des jours durant, la poursuite les emmena d'un coin à l'autre du lac, et la chèvre parvenait toujours à s'échapper. Il fallut longtemps au jeune homme pour apprivoiser les manières, les habitudes de l'animal, mais il y parvint. Finalement, il attrapa la chèvre. Il ouvrit alors son ventre, comme le condor le lui avait dit, et en sortit un chat. De son ventre à lui jaillit un cochon d'Inde qui se débattait en tous sens, et enfin, de son ventre, ouvert avec mille précautions, de la pointe du couteau, sortit une colombe blanche. Mais aussitôt libérée, elle déploya ses ailes et fila vers le ciel. Le jeune homme se lamentait de l'avoir perdue. Il savait que plus jamais il ne la rattraperait là-haut. À ce moment, un aigle jaillit des cimes.
« Oh, aigle, s'il te plaît, aide-moi! Aurais-tu la bonté d'étourdir cette colombe du bord de ton aile ?»
L'aigle s'exécuta. D'un battement d'aile, il heurta la tête de la colombe, qui fila comme une pierre vers le sol. Le jeune homme se précipita et l'attrapa en douceur avant qu'elle ne heurte la terre. Entre ses doigts, une lumière jaillit alors, et la jeune femme apparut à la place de l'oiseau.
« Alors, c'est vrai? Tu m'aimes vraiment? Quand tu m'as vu cette nuit-là, j'étais persuadé que jamais tu ne pourrais m'aimer, que tout était perdu. Alors j'ai fui, mais tu m'as suivi jusqu'ici, tu m'as retrouvé. »
Le jeune homme répondit simplement en lui demandant de l'épouser, et la jeune femme accepta aussitôt. En un instant, ils furent transportés à l'orée de leur village. Il y avait une grande prairie face à eux. Ils souhaitèrent y avoir leur foyer, et dans la nuit, sans que personne n'ait vu le moindre ouvrier, une grande demeure apparut, semblable à un palais, avec des domestiques et des majordomes. Tous les voisins étaient abasourdis. Comment une telle bâtisse avait pu s'élever en une nuit? Finalement, ils se marièrent en grande pompe. Tous les habitants du village et tous ceux que les amoureux avaient croisés sur leur chemin furent invités. J'y étais, moi aussi. La nourriture était excellente. J'ai voulu vous en ramener, mais en rentrant, un chien errant a jailli d'une ruelle et a tout dévoré. La créature du soir est Kowai, un yokai glouton qui gobe tout ce qui lui tombe sous la main. De son vivant, il dévorait tout ce qui appartenait aux autres. Dans la mort, maintenant, incapable de laisser le monde derrière lui, il erre parmi les fantômes et continue à essayer de satisfaire son appétit insatiable. Dans Contes des Soirs Perdus, j'ai à cœur de vous faire partager des contes anciens, populaires, ceux qui se transmettaient oralement de personne à personne. Avant d'être des histoires, ce sont surtout des fragments de liens humains, des mots, des récits qui ont lié ceux qui les ont entendus et comptés à travers les siècles, parfois les millénaires. Cette histoire, recueillie en quechua par Johnny Payne, nous vient de Theodora Palitza et a bien failli être perdue.
Payne était un chercheur qui voyageait au Pérou pour y collecter des contes traditionnels. C'est une de ses collègues, une linguiste, qui étudiait le Quechua, qui l'avait orienté vers cette dame de 69 ans, mais seulement pour trouver un endroit où loger à Cusco. Elle avait prévenu Payne que Théodora ne connaissait aucune histoire traditionnelle. Pourtant, lorsque Théodora apprit ce qui amenait Payne au Pérou, elle insista pour lui conter nombre d'histoires et d'énigmes. Quand il s'en étonna, elle éclata simplement de rire, disant qu'évidemment elle en connaissait, mais qu'elle ne voulait pas les raconter à un dictionnaire. La linguiste qui avait renseigné Payne ne s'intéressait en effet qu'à des variations lexicales du Quechua, pas aux histoires en elles-mêmes. Pendant le séjour de Payne, Théodora fut hospitalisée à cause d'une pneumonie. Elle rentra chez elle quelques jours plus tard, mais décéda 3 mois seulement après le départ de Payne. À cause de ce séjour à l'hôpital, elle ne put lui conter toutes les histoires qu'elle avait voulu lui transmettre. Mais Payne parle dans son témoignage d'une vraie urgence chez cette dame, la conscience qu'il s'agissait de sa dernière chance de partager ses histoires. Son mari était mort, sa fille et sa petite-fille peu intéressées par les histoires d'antan. Sans Théodora Palizza, sans Johnny Payne, sans le hasard qui les a fait se rencontrer, cette histoire, et beaucoup d'autres, aurait été perdue. C'est un peu la voix de cette grand-mère, partie depuis près d'un siècle maintenant, et de ceux qui ont raconté cette histoire avant elle, qui nous est parvenue dans cet épisode. Celle-là, nous avons la chance de l'avoir conservée. Alors partagez-la, racontez-la à votre tour, et maintenez le lien. C'est déjà tout pour ce soir. Conte des Soirs Perdus est une création de Lloyd et Biljana Blake. La prochaine fois, on termine enfin le Mahabharata, la grande épopée des dieux et guerriers de l'Inde antique.